Bernard, vas-y.
Eh bien, bonjour à tout le monde, mais je crois qu'on a serré la main à tout le monde. Je commencerai par un préambule sémantique bref. D'ailleurs, tout va être bref, hein, parce qu'en 25 minutes, traiter ça, ça va être bref. Hein. Pour distinguer religion, morale, éthique, droit, en allant très vite un peu à la hache, plutôt que de donner des définitions, je dirais que la religion, qui est le lien de l'homme à Dieu, la religion s'articule dans la dualité sacré-profane, ou bien surnaturel-naturel, tandis que la morale, elle, s'articule dans la dualité bien-mal. On est donc dans deux registres différents, d'autant plus que la morale est une praxis, elle. La religion aussi, en un certain sens, c'est une praxis. Une praxis, c'est-à-dire, elle est de l'ordre de l'action, du comportement, de la relation à l'autre et à soi-même. L'éthique serait davantage dans la dualité sens et non-sens, sens de la vie. Sens et non-sens, encore que, et là je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est un faux débat que de se demander si l'éthique est vraiment différente de la morale et la morale de l'éthique. C'est Cicéron qui a traduit le mot éthique grec par le mot morale latin, et il dit que c'est la même chose, quoi. À savoir qu'il s'agit de la relation à autrui et à soi-même évaluée en fonction du bien et du mal. Mais il est de... Généralement, l'éthique serait une réflexion, une réflexion sur la morale, tandis que la morale serait tout simplement le fait de vivre avec des valeurs sans trop les avoir critiquées. Mais même là, ça ne fait pas l'unanimité. Vous avez par exemple un Raymond Paulin qui a été mon directeur de thèse, qui lui pense ce que je viens de dire. Mais Paul Valadier, qui est très connu, philosophe et théologien chrétien, dit exactement l'inverse, lui. Hein. Il dit que c'est l'éthique qui est le quotidien de nos habitudes, de nos us et coutumes du comportement moral, et que c'est la morale qui interpelle et interroge l'éthique. Bon, on ne va pas y passer sa vie, là. Le droit, quant à lui, est très différent. Le droit positif, c'est une obligation qui vient de l'extérieur. C'est une contrainte qui vient de l'extérieur. Elle s'articule entre le permis et l'interdit, mais la morale et l'éthique aussi, hein, s'articulent dans le permis et l'interdit. À ceci près que, dans la morale et l'éthique, il s'agit d'une obligation intériorisée, appropriée, que je m'impose à moi-même. Alors que le droit, surtout le droit positif et le droit écrit, s'imposent de l'extérieur. Alors, allons-y, peut-il y avoir une morale ou éthique sans religion? Je commence par ça, c'est un peu paradoxal. On aurait pu finir par ça. La formule qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Alors ça aura énormément de succès parce que ça va être repris par Nietzsche. Alors on ne sait pas si Nietzsche l'a repris ou s'il l'a réinventé. Hein, bon. Et ça sera chez nous, en France, particulièrement repris par Sartre dans L'existentialisme est un humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de sens obligatoire, il n'y a plus de sens interdit, il n'y a plus de transcendance qui fixe des repères. Chacun fait ce qu'il veut, tout est relatif, toutes les vérités sont relatives, toutes les valeurs sont relatives, et donc tout est permis finalement. Y a-t-il des morales sans religion? Alors, parce que nous n'avons que peu de temps, j'ai pris que deux exemples, mais s'il y a des questions, on prendra d'autres exemples. Le premier exemple qui sans doute vient à l'esprit au XXIe siècle, en France, en Europe, c'est la morale du vivre ensemble. La morale du vivre ensemble, qui est une morale sociologique en quelque sorte. Un pacte social, un contrat social. Comment on fait pour vivre ensemble ? On est bien obligé de faire attention, de ne pas faire à autrui ce que je ne veux pas qu'il me fasse. on est dans une morale courante, mais elle est beaucoup plus dangereuse que ce qu'on le croit. Parce qu'aujourd'hui, on vante les mérites du vivre ensemble, on a sans doute raison, parce qu'il y a quelques carences dans le domaine. Mais le vivre ensemble, quand on le pousse jusqu'au bout, quand on en fait la priorité, quand on ne fait pas attention, par exemple, à la dignité de chaque personne, le vivre ensemble devient rapidement totalitaire. Et ce, depuis une très grande tradition. Je ne remonterai pas plus haut que Hobbes, au XVIIe siècle, avec le Léviathan. Hobbes qui dit, la formule est célèbre, l'homme est un loup pour l'homme, il n'y a qu'une solution, il faut abandonner toutes ses prérogatives individuelles au pouvoir du despote. Qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, c'est mieux d'obéir à un mauvais despote que de ne pas avoir de despote du tout. Je simplifie un peu, mais à peine, hein. Hobbes au XVIIe siècle. Et au XVIIIe, Rousseau, qui est beaucoup mieux vu en France que Hobbes, davantage inconnu, Rousseau, dont on nous dit qu'il serait l'un des piliers de la théorie démocratique, dit quand même que, dans le contrat social, qu'il exhorte à l'aliénation, c'est les mots qu'il emploie, hein, l'aliénation de toutes les libertés individuelles au profit de l'intérêt général. Le vivre ensemble peut avoir des dérapages importants et la religion peut-elle être un frein? Alors on sait bien que la religion a été aussi le fanatisme, l'est encore dans certains cas, mais si elle en appelle à la dignité de l'être humain, à l'image de Dieu, je dis au christianisme, on est quand même dans une sécurité morale peut-être mieux garantie. L'autre exemple, j'en prends que deux, c'est l'exemple de Kant qui invente presque, vous allez voir que ce n'est que presque, invente presque une morale laïque. C'est-à-dire une morale qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin de Dieu. Une morale qui dit il faut obéir à la raison parce que je suis la raison. Obéir à la raison, c'est obéir à soi-même. Et qu'est-ce qu'elle dit, la raison? Elle énonce, elle édicte l'universel. L'universel de la loi morale, c'est à chaque fois que je vais agir, il faut que je me demande si le mobile de mon action peut devenir une loi universelle. La formule exacte c'est de Kant, c'est « agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi universelle. » C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas ériger le vol en loi universelle, je vais être volé. Pas ériger le meurtre en loi universelle, etc. La raison serait donc à elle-même, toute seule, parce que je suis la raison, et parce que la raison est en quelque sorte une production d'universalité, eh bien, la raison peut fonder la morale. Sauf que Kant lui-même dit, attention, je le reconnais, la vie vertueuse peut être désespérante, peut être malheureuse. Les voyous, les délinquants peuvent être beaucoup plus heureux que les vertueux. Et s'il y a une logique de la vertu, alors la raison postule l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, et donc on ne peut pas conclure à une morale sans religion, hein. Puisque pour que la vertu puisse conduire au bonheur, il faut que la raison postule, c'est lui-même qui emploie ces mots, hein, la raison postule l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Je prends que ces deux exemples, on pourrait en prendre bien d'autres. Bref, là, les morales sans religion sont tout à fait possibles, mais vous voyez bien qu'elles posent un certain nombre de questions, même si je suis loin de les avoir toutes envisagées. Deuxièmement, la religion chrétienne induit une conduite morale, l'amour. Souvenons-nous bien du sujet. On se demande si la morale prend sa source dans la religion. Le premier commandement dans l'Évangile, mais c'est aussi le premier commandement dans la Bible, dans son ensemble. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu. Et donc on est dans le religieux là. On est tout entier dans le religieux. C'est peut-être dans l'Évangile plus un appel de l'esprit, l'esprit de la Pentecôte, qu'une obéissance à une consigne. Mais attention au lieu commun, hein. Il est un peu rapide de dire que il y a d'un côté l'esprit de la Pentecôte, et de l'autre côté le commandement formel de la loi, des lois de l'Ancien Testament. C'est un peu rapide, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi évidemment de l'esprit dans l'Ancien Testament, et il y a aussi de la loi dans le Nouveau. Enfin, bon, en 25 minutes, on ne va pas pouvoir entrer dans tous ces détails. Et le deuxième commandement, il n'y en a que deux dans l'Évangile, c'est répété plusieurs fois. Le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Et aussitôt, on explique que c'est la même chose. Finalement, il n'y en a qu'un. Pourquoi c'est la même chose? Ben, vous vous souvenez du chapitre 25 de Matthieu, qui dit j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire, etc. Et évidemment, les humains qui sont en face disent, mais enfin, moi, je ne t'ai jamais vu, quoi. Je ne t'ai jamais rien refusé, je ne t'ai jamais vu. Et le Christ dit, oui, mais si tu ne l'as pas fait à un tel, un tel, un tel, c'est que tu ne l'as pas fait à moi. C'est l'idée d'incarnation de la personne divine du Christ dans chaque personne. Et donc, aimer Dieu, aimer son prochain, revient à la même chose. Et là, de ce point de vue, on peut dire que la morale procède de la religion, ou plutôt même, à la limite, se confond là avec la religion. Mais, troisième chapitre, et là ça se complique là. Là ça se complique du point de vue de l'entendement. Jusque-là, c'était pas trop difficile. Le troisièmement, c'est mais, ça commence par un mais, le titre, mais la religion chrétienne ne se confond pas avec la morale. Et la première idée est surprenante. La première idée, les catéchismes pour enfants n'y insistent pas beaucoup, et la deuxième idée encore moins. La première idée, c'est une citation célèbre de Paul, saint Paul aux Galates, épître aux Galates, chapitre 2, verset 16. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que l'homme est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ. Les œuvres, c'est les bonnes actions, c'est la morale. C'est le respect de la loi aussi bien juridique que de la loi morale. Eh bien, c'est pas ça qui nous sauve. C'est uniquement la foi en Jésus-Christ, épître aux Galates, et puis c'est répété dans d'autres épîtres. Ça va même plus loin, hein, parce que la foi est elle-même un don de Dieu. Elle n'est pas un choix décidé par chacun. Et la grâce aussi est un don de Dieu. Et saint Augustin y insiste particulièrement. Et là donc il y a une très forte supériorité du religieux sur le moral. À la limite, là, si j'en reste là, la morale ne compte pas beaucoup pour le salut, hein, avec la foi qui compte. Et alors, deuxièmement, et alors là, il est encore beaucoup plus surprenant. Alors, celui-là, on l'entend pas souvent, hein. Et pourtant, c'est connu aussi, c'est même répété, hein, dans l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates. Je n'ai connu le mal que par la loi. Alors là, c'est quand même assez étonnant, là. Hein. Et il continue. Et de fait, dit saint Paul, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire que c'est à cause de la loi morale ou de la loi juridique que je suis tombé dans la faute, que je suis tombé dans le péché. Non seulement la morale ne me sauve pas, mais la loi morale m'incline à aller en sens inverse du salut. Et la convoitise relève bien de la loi morale, pas de la loi juridique. Hein. C'est dans Romains, hein, la citation est dans Romains chapitre 7, verset 7. Donc, on va retrouver d'ailleurs au XXe siècle, il faudra attendre donc longtemps, hein, pour que de grands spécialistes des sciences humaines comme Lacan, psychanalyste et structuraliste, reprennent cette idée de désir qui s'instaure de l'interdit. Ou Georges Bataille, hein, aussi, qui va dire la même chose. Donc, non seulement le salut ne vient pas de nos actions morales, mais c'est la loi morale qui, finalement, est cause du mal et du péché. Mais en même temps, il y a un « mais » que j'ai écrit exprès en majuscule, renversement de situation, mais le Christ lui-même, dans l'Évangile, la prise de Saint Paul, dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et Saint Pierre, comme Saint Jacques, affirme l'importance des actions morales. Et alors Saint Jacques lui dit exactement l'inverse de ce que j'ai dit à l'instant. Il dit « À quoi cela sert-il que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres, c'est-à-dire les actions conformes à la morale ?» Jacques, chapitre 2, verset 14. D'où finalement une apparente contradiction, on verra que ce n'en est pas une, et c'est aussi le gouffre dans lequel va se débrider toutes les querelles entre chrétiens, hein, entre les protestants et surtout entre protestants et catholiques, au sujet de la prédominance de la foi ou des œuvres dans le salut. Finalement, il n'y a de salut que dans l'ordre religieux de la foi et de la grâce, au point où j'en suis là. Mais attention, hein, la grâce s'adresse aussi aux non-croyants, pas simplement aux croyants. Mais la foi n'est pas simplement une croyance. La foi est une mise en œuvre d'actes libres qui relèvent de la morale. Alors, quelle morale? Pas celle des interdits. On vient de dire que ça va pas du tout, la morale des interdits. C'est le quatrième paragraphe, là, de nouveau, c'est Saint Paul. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Et qu'est-ce qu'elle est, cette liberté? Tout est permis. Donc, c'est clair, là, tout est permis. Tout est permis, c'est Saint Paul qui parle, mais tout n'est pas profitable. Et si on regarde le contexte, profitable, ça ne veut pas dire profitable pour les intérêts et l'argent, c'est profitable à la charité, profitable à l'amour. C'est dans la première épître aux Corinthiens 10, 23. Donc, primauté de la foi, mais nécessité d'une conduite morale librement choisie. Quatrième et dernier chapitre, et là, la contradiction n'en est plus une, la contradiction se résout. Les indignités morales et la dignité sacrée et universelle de la personne humaine. Qu'est-ce que la dignité de la personne humaine? Quiconque est quelqu'un qui compte. On peut le résumer comme ça. Toute personne a une valeur absolue. La valeur d'une personne n'est pas relative à ses défauts, n'est pas relative à ses qualités non plus. N'est pas relative à ses performances, n'est pas relative à son intelligence, n'est pas relative à sa sensibilité, elle est absolue. D'où le débat que les religions mènent au sujet de l'euthanasie, par exemple, hein, parce que la valeur d'un homme n'est pas liée au fait qu'il soit complètement ou non délabré. C'est en tant qu'il est homme qu'il est complètement digne, indépendamment de ses performances, de ses qualités, de ses défauts. Sinon, l'homme n'est qu'une chose. Sinon, l'homme n'est qu'un animal, un instrument. L'homme n'est qu'une marchandise. Et la dignité, c'est donc l'idée de valeur absolue. Absolue, ça veut dire qui n'est pas relatif, qui se suffit à lui-même, qui est donc de l'ordre du sacré, du divin. Et l'idée principale est dans le deuxième paragraphe. Comment croire en la dignité de l'homme alors que d'évidence, tout homme est indigne. Tout homme commet des indignités morales. Comment croire qu'il est investi d'une dignité absolue alors que nous nous connaissons bien et nous connaissons les autres en général? On critique d'ailleurs plus les autres que soi-même, mais l'indignité morale est un fait patent. Eh bien, ce n'est possible que parce qu'il y a le pardon. Ce n'est possible que parce qu'il y a la rédemption. Ce n'est possible que parce qu'il y a un vrai geste d'amour. Il est vrai en quoi ? Il est vrai dans le fait qu'il coûte. C'est pas un coup de baguette magique. C'est pas Zeus qui claque des doigts. C'est un geste d'amour qui coûte, c'est la croix. Et aussi, cette idée que j'ai déjà avancée, d'incarnation du Christ en chacun, c'est-à-dire de dignité sacrée de la personne. Finalement, le salut, c'est, du moins en un sens, c'est une entrée, un aspect, c'est le salut, c'est le... J'allais dire, c'est 5 minutes. Non, le salut, c'est pas... Le salut, c'est pas 5 minutes. Le salut, c'est la réhabilitation de l'homme dans sa dignité. C'est un aspect, c'est pas le seul aspect du salut. Hein. Il y a d'autres aspects, la vie éternelle, bon, et qui, c'est pas négligeable, hein, tout ça. Mais pour l'instant, je traite pas de ça, moi. Hein, je traite de morale et religion. Le salut, ici, est la réhabilitation de l'homme dans sa dignité, par le pardon, par la croix, par l'incarnation. Et j'en viens donc à Pascal, dont on peut retenir cette phrase, l'homme dépasse infiniment l'homme. Ça veut dire que il y a du divin, il y a du Dieu dans l'homme. Et c'est en ce sens qu'il a une dignité absolue. Il y a du Dieu dans la personne humaine. Et le bien commun, qui est de l'ordre du collectif, lui, et non plus du personnel. Le bien commun, c'est l'intérêt général, certes, mais pas à la Rousseau. C'est l'intérêt général dans le respect de la dignité de chaque personne humaine dans sa particularité unique. C'est l'effort collectif et individuel pour que chacun puisse s'épanouir dans la dimension qui lui est propre. Donc, priorité de la dignité spirituelle sur les indignités morales. La dignité spirituelle étant absolue. Ma conclusion, donc, je crois que ça va être bon pour les 25 minutes. Je m'en étonne moi-même, là. La conclusion, c'est que l'éthique, c'est-à-dire ce que j'en ai dit au préambule, l'idée de finalité, l'idée du sens, c'est que le christianisme, mais peut-être pas que le christianisme, distingue la personne de ses comportements. Particulièrement dans l'épisode évangélique de la femme adultère. Et si j'ai encore une minute, je dirais que c'est curieusement le sens peut travailler aujourd'hui, ça a été travaillé dans les siècles passés, mais le sens peut travailler du purgatoire. Le sens peut travailler du purgatoire et que Benoît XVI pourtant rappelle dans son encyclique Spe Salvi, ça veut dire l'espérance, enfin c'est mal traduit par espérance dans le salut, Spe Salvi, reprend ce passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, où il est dit que le feu purificateur brûle les comportements immoraux, les comportements nocifs, les comportements anti-amour. Mais la personne, elle, c'est écrit, est sauvée. La personne, elle, est sauvée. Distinction donc de la personne, et ça c'est d'ordre religieux, c'est l'investissement du divin en chaque personne, et des comportements moraux, qui certes sont importants, mais sont distincts de la dignité absolue de la personne humaine. J'en ai terminé, cher Xavier.
Bernard, c'est parfait. On a tenu le timing. Un grand merci. On peut applaudir quand même. Et donc, vous notez bien vos questions pour la seconde partie. Une fois que Marc Alain aura intervenu.
Alors, je salue d'abord le tour de force de ces 25 minutes dans lesquelles sont entrés à la fois le plan et le développement, c'est très fort. Et alors, je m'aperçois, et c'est tout à fait, mais je le savais, qu'on avait préparé exactement la même conférence. Donc, on a 25 minutes de questions. alors, je vais vous montrer pourquoi c'est exactement la même conférence, mais exactement à la virgule près. Donc, je vais reprendre exactement les points qui ont été évoqués et je vais montrer en quoi je suis d'accord. Je suis toujours d'accord, mais en quoi on peut les prolonger de manière différente. Moi, j'avais préparé mon intervention par une anecdote que raconte Paul Ricoeur dans un livre qui s'appelle « Je comme un autre », où il dit « J'étais jeune étudiant à la Sorbonne dans les années... » Ricoeur est né en 1913. Donc vous ajoutez 20 ans, ça fait dans les années 30. Merci. Non, c'est bon. Et il dit « C'est l'époque où le boulevard Saint-Michel était encore plein de librairies. Aujourd'hui, ça a été remplacé par des fast-food et autres magasins d'habits. Et il dit donc, je sors de la Sorbonne et je vois en librairie, ça devait être chez Vrin, je vois le livre de Spinoza qui s'appelle L'Éthique. Et il continue, il arrive au PUF et il voit le livre de Brunswick qui s'appelle La Morale. Il commence à se poser, c'est un jeune étudiant, quelle différence entre l'éthique et la morale ? Il descend un peu plus loin, il arrive chez Gibert Jeune, et là, il y a un livre qui s'appelle « L'éthique de la morale ». Bon, mais comme il y a Joseph Gibert plus loin, ce qui l'a sauvé, et là, il tombe sur un livre qui s'appelle « La morale de l'éthique ». C'est très sérieux, hein, c'est vrai. Alors, il s'est dit, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question, mais vraiment, quelle différence il y a entre éthique et morale ? Il a cherché dans les dictionnaires, et il est arrivé à la conclusion qui a été proposée à l'instant, à savoir que éthique, d'un point de vue simplement historique, éthique et morale, c'est exactement la même chose. L'un est de référence grecque, éthique vient de ethos, et morale vient du latin mores, qui veut dire les mœurs, etc. À partir de là, Ricoeur dit une chose très importante d'un point de vue méthodologique pour les étudiants. À chaque fois qu'il est question d'éthique et de morale, il faut toujours se poser la question, mais d'après qui ? Parce que tous les philosophes, sans exception, ont toujours une définition différente de l'éthique et de la morale. Ouais. Et vous avez vu, Kant a proposé, on parle de la morale de Kant, on parle de l'éthique de l'un et de l'autre, et donc il se dit, je vais vous proposer, moi, Ricoeur, ce que j'entends par éthique et morale, et puis, à partir de là, vous l'utiliserez en disant, selon Ricoeur, mais vous pouvez l'utiliser selon d'autres. Et donc, moi, je vais vous donner deux définitions, celle de Ricoeur et celle de Lévinas, et à partir de là, je vais continuer mon propos. Ricoeur dit, c'est un choix, hein, comprenez bien que c'est simplement un choix, il aurait pu dire autre chose. Il dit, quand je fais une action, quand il y a une action, il y a des outils pour la réaliser, cette action. Les outils, ce seront la morale de l'action. Et quand il y a une finalité de l'action, à ce moment-là, on peut parler de l'éthique de l'action. Par exemple, pour reprendre l'exemple qui a été donné, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour des hommes, la finalité, l'amour de Dieu ou des hommes, ça peut être l'éthique, ça définit une certaine éthique, une certaine finalité. Mais la manière dont vous allez réaliser cette éthique, cette finalité d'aimer Dieu ou d'aimer les hommes, le choix que vous allez faire, les outils que vous allez utiliser, ce sera votre morale. Voilà la distinction que fait Ricoeur. À ce moment-là, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que tu ne tueras pas, si on prend l'exemple des 10 commandements, qui sont quand même quelque chose de très central dans le texte biblique de l'Ancien Testament, est-ce que les 10 commandements sont de l'ordre de l'éthique ou de l'ordre de la morale ? Est-ce que quand on dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », est-ce que c'est de l'éthique ou c'est de la morale ? Voilà une question que je vous pose d'après Ricoeur. Est-ce qu'il y a des outils ? Parce qu'on vous parle d'outils de quelque chose. Et est-ce qu'il y a une finalité dans cette manière de parler de Dieu ?
L'idée globale est éthique,
oui.
Et le décalogue est plutôt moral.
Oui, mais quelle est l'idée générale?
Je vous donne les moyens pour.
Ah, alors je vous donne les moyens pour une éthique que je n'ai pas définie, et ces moyens, c'est la morale des 10 commandements. Je suis entièrement d'accord. Tu ne tueras pas, on ne sait pas quelle est la finalité. Il faudra la définir, peut-être, le bien commun, etc. Lévinas va proposer une autre interprétation, et on aurait pu réfléchir longtemps sur cette distinction, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est j'ai un souci moral, c'est de vous donner des outils. Mais c'est ma finalité, donc c'est mon éthique. Mon éthique, ici, est de vous donner une morale. Et Lévinas propose une distinction qui est complètement différente. Il dit, prenons un exemple très simple, qui nous arrive tous les jours, de rencontrer des gens qui tendent la main dans la rue et de devoir donner 1 euro, 50 centimes d'euro, puisque on ne donne peut-être pas 1 euro à chaque fois, si on donne. Et on se pose la question, mais pourquoi on donne? Quel est le sens? Quelle est la motivation de se donner? Si on donne parce que la personne qui a besoin n'a pas de bras, n'a pas de main, et aveugle, et on est complètement dans la compassion, c'est un bouleversement affectif qui fait qu'on fait ce geste. Pour Lévinas, ce geste est un geste moral. Mais si, une fois qu'on voit quelqu'un qui tend la main, et puis un deuxième qui tend la main, et on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait tant de pauvres dans ce pays, et qu'on se précipite au ministère de X, Y, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de gens qui tendent la main, à ce moment-là, étant donné que c'est une action qui est de l'ordre de la réflexion, on n'est plus dans la morale, dans la réaction affective, on est dans l'éthique. Le comportement d'un gouvernement qui met en place l'impossibilité de la pauvreté est un comportement éthique. L'homme qui donne 1 euro ou plus parce qu'il est sensibilisé affectivement par le besoin de l'autre, on est dans la morale. Et Lévinas pose la question d'une sorte de hiérarchie entre morale et éthique. Et il dit très simplement, il l'a dit pour lui-même, c'est très simple, quand vous donnez par morale, c'est tant que vous êtes sensibilisé, vous donnez. Mais que se passe-t-il le jour où vous n'êtes plus sensibilisé? Tout simplement parce que vous devenez insensible, tout simplement parce que la situation politique fait, ou sociale fait que vous n'avez plus envie de donner à ces personnes que vous avez repérées être une partie de la population stigmatisée parce qu'ils viennent d'ailleurs manger le pain de X, Y, etc. D'ailleurs, la semaine dernière, il y en a un de ce groupe-là qui m'a volé ma veste dans le train. Pourquoi je vais leur donner? Et donc, la morale est soumise aux aléas d'une sorte de volonté qui peut changer. On ne peut pas fonder, dit Lévinas, une société sur les aléas de la morale, c'est-à-dire sur les aléas de l'affect. Mais l'éthique étant fondée par l'institution, fait que si aujourd'hui je veux ou je veux pas, ça change rien. Les gens qui ont besoin auront ce qui est leur nécessaire. Et de ce fait, dans un petit livre par exemple qui s'appelle « Difficile liberté », c'est un des premiers chapitres, ça commence par le titre de son chapitre s'appelle Éthique et esprit, et le premier paragraphe s'appelle L'ennuyeuse morale. Il y a chez Lévinas volontairement une sorte d'apologie de l'éthique contre la morale. Une fois que l'on a fait cette présentation, on peut par exemple aussi articuler la question de l'herméneutique avec la question de l'éthique ou de la morale. Vous vous rappelez que quand on a abordé la manière d'étudier les textes de la tradition, on a parlé des 4 niveaux d'interprétation, qui ne sont pas les mêmes que les 4 niveaux d'interprétation dans le christianisme. On appelle cela dans le judaïsme le pardès. Le pardès, le paradis du sens, c'est le pshat, le sens qu'on appelle littéral, le remez, le sens allusif, le drash, le sens interprétatif, et le sod, c'est le sens secret. Mais quand on essaye de penser ces 4 niveaux d'interprétation en rapport avec les catégories de morale et d'éthique que je viens d'évoquer, on peut reconstruire ce pardès de manière différemment et non simplement d'un point de vue herméneutique. Imaginez, et je vous donne cet enseignement au nom d'un maître qui s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, Et imaginez, dit-il, qu'on donne de l'argent à quelqu'un. Donc on reprend le même exemple. Le fait de l'action elle-même, de faire le geste lui-même, il est au départ, il peut être perçu déconnecté de toute motivation. C'est quelque chose que vous analysez simplement comme une action presque mécanique. C'est un geste. Vous donnez un euro. C'est ce qu'on va appeler le pshat, le sens littéral. C'est d'ailleurs très intéressant parce que le mot pshat, qui veut dire sens littéral, est un verbe en hébreu qui dit tendre la main. Ani pochet tayad, c'est-à-dire je tends la main. Presque comme si ces quatre niveaux d'interprétation étaient déjà prêts pour expliquer cet exemple-là. Mais il y a un deuxième niveau qui est le remez. Qui est en fait le remez, c'est le ressenti affectif que vous avez quand vous faites cette action. Est-ce que vous pouvez dire « Ah là là, je me sens bien, j'ai fait cette action, j'ai fait une action positive aujourd'hui, comme on dit quand on était au scout, j'ai fait ma BA quotidienne, et puis on a un ressenti éminemment, on se sent bien, on se sent presque un héros, et parfois on est malheureux que la personne à qui on a donné un euro soit aveugle, parce que c'est pas qu'on aurait préféré qu'elle soit voyante, mais on aurait préféré qu'elle nous voit donner, vous voyez, un petit peu dans une sorte d'héroïsme moral. » Ça, c'est l'affect. Mais, alors, ce qui est très intéressant, il dit que l'affect peut être perçu ici à deux niveaux. Il peut être perçu à un niveau immanent de ce que le sujet ressent de lui-même par rapport à lui-même, dans cette satisfaction extrêmement personnelle, mais ça peut être aussi une sorte de lien avec la transcendance infinie du divin, dans la mesure où on se dit, mais le geste que je viens de faire, qui est un geste limité à ma propre personne. C'est un geste de finitude et c'est un geste d'égoïsme presque. Je donne par l'égoïsme de mon ressenti, du bonheur que je ressens en donnant. Mais si au moment où je donne et que je comprends que l'acte que je fais est un acte de compassion, mais qu'à ce moment-là je comprends que je suis dans une sorte de mimétique de la compassion divine pour ces créatures, je ne suis plus dans l'immanence de mon propre geste, mais je suis relié à la transcendance de la compassion divine pour ces créatures. Et à ce moment-là, même si on est dans l'ordre de l'affect, on est aussi dans l'ordre de la transcendance. C'est-à-dire que l'affect et la morale, ici, peuvent se ressentir à deux niveaux, niveau immanent et niveau transcendant. Vous me suivez ou je suis tout seul? Ça vous suivez?
Non, vous avez la concurrence d'or. Hein,
oui, mais Xavier, je préfère qu'on laisse ouvert.
Tu préfères?
Oui, j'ai un problème d'oreille. Non, mais j'ai un problème d'oreille. Quand c'est fermé, je...
J'aurais fait peur, c'est bon.
Voilà. Ensuite, le troisième, vous inquiétez pas, je m'arrêterai pile à 25 minutes. La différence, c'est que moi, je n'aurais pas terminé. Mais, c'est pas grave, c'est parce que Bernard, lui, il a, c'est bon, c'est quand même, c'est sérieux, moi, je commence à être un peu jaloux de ce sérieux, de se exposer en quatre points avec une date, bon. Et l'idée, le troisième niveau qu'on appelle le drash, c'est on prend de la distance par rapport au geste mécanique que l'on a fait, par rapport au ressenti affectif que l'on a eu, qu'il soit immanent et transcendant. Et à ce moment-là, on est dans cette distance critique, dans une analyse du geste que l'on a fait. Et cette présentation, ce rapport intellectuel, cette analyse intellectuelle du geste, c'est ce qu'on va appeler le drash. On est là au niveau de la chorma, au niveau de l'intelligence, et c'est quelque chose qui... c'est le troisième niveau d'interprétation. Mais il y a le quatrième niveau, qu'on appelle le sod, qu'on appelle le secret, c'est qu'en fait, pour tout geste, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à une seule personne. C'est l'intériorité absolue qui est absolument impartageable et qui fait que chaque être humain... comme nous, par exemple, ici, est une personne qui est unique, qui est irremplaçable et qui fait que les relations entre les êtres ne sont pas des relations où les êtres peuvent se dissoudre dans la relation, dans une sorte de même-té, ou parce qu'on va dire « Ah ben j'ai ressenti la même chose, ah oui, j'ai pensé la même chose ». On pourrait croire à un certain moment qu'il y a une sorte de partage absolu qui est possible. Or, le quatrième niveau d'interprétation, c'est le moment où on se rend compte qu'on fait une expérience qui est impartageable, qui est l'unicité de chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais rajouter sur, sur cette notion d'éthique et de morale. Mais quand Lévinas va dans toute son œuvre, que ce soit l'édifice Liberté, mais surtout totalité et infini, parler de l'éthique, il va la définir tout simplement d'une autre façon encore, qui est éthique, c'est la relation à l'autre. J'appelle éthique, dit-il, la relation à l'autre. Et à ce moment-là, il va essayer de penser la différence entre la relation à l'autre en tant qu'autre être humain et la relation à l'autre en tant que divin. Et on va voir qu'il y a des choses extrêmement proches par rapport à ce qui a été dit. Et je vais analyser un texte de Totalité Infinie, pages 76 et 77 de l'édition de poche. Et ça va nous permettre aussi de comprendre ce que Lévinas appelle le visage dans cette relation, ce qu'on appelle un visage. Avant de vous expliquer ce qu'est le visage, je voudrais faire une parenthèse sur ce qu'a évoqué Bernard Ribal de cette notion de premier commandement ou de commandement premier et deuxième qui ne font qu'un. Il y a dans le texte biblique, on dit toujours « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est dans les évangiles. Bien évidemment, vous savez, vous vous rappelez que c'est dans les évangiles, mais c'est une citation du Lévitique chapitre 19. Oui. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que l'amour n'est pas un impératif. On ne peut pas dire à quelqu'un « tu aimeras X ou Y ». On ne peut pas dire que tu aimes ton prochain, on ne peut pas dire que tu aimes Dieu. L'amour n'est pas un impératif. On ne pourra jamais vous forcer à aimer X ou Y. À ce moment-là, il faut repenser le texte du Lévitique, que ce soit par rapport au prochain ou par rapport à Dieu. Et ce qui est important, quand on vous cite un verset, on vous dit « c'est dans le verset », il faut toujours aller voir ce que vous allez faire, par exemple ici. Vous allez retrouver tous les versets que Bernard vous a proposés dans les différents textes qui ont été cités, pour voir non seulement ce qui est dit dans le verset, mais de réanalyser le contexte. Un verset fait sens dans son contexte. Or, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » n'est qu'une moitié de verset. Le verset complet est le suivant. Si quelqu'un t'a fait du mal, et ce quelqu'un s'appelle justement ton voisin et ton prochain, qui en hébreu est un mot « re'echa », qui est le même mot que « mal », « m-a-l ». Ra, c'est le mal. Re'echa, c'est ton voisin, c'est ton prochain. Parce que le prochain est toujours celui qui peut te faire du mal. Mais si ton prochain qui t'a fait du mal, t'a fait du mal, tu peux avoir immédiatement, et vous allez voir que d'un point de vue politique, c'est d'une grande actualité malheureuse, c'est que tu peux avoir immédiatement envie, de manière pulsionnelle, de te venger. C'est-à-dire être non pas dans une réaction pensée, non pas d'être dans une éthique, mais d'être dans un affect pulsionnel de la réaction immédiate au mal qui a été fait dans la vengeance. Ça, c'est ce que je dirais, et le texte continue, dit, si ton ami t'a fait du mal, ton ami, mais lotitor veloticum, tu es capable de te retenir, et tu es capable de ne pas te venger, Ve'afta le re'acha kamocha, alors tu es considéré comme aimant ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain n'est pas un impératif, mais une conséquence à la capacité à ne pas réagir à son action envers toi de manière affective et pulsionnelle. Et quand je dépasse la dimension de l'affect, que j'ai appelé avec Lévinas la dimension morale, et que je prends du recul dans l'intelligence de l'analyse de la situation, quand je suis capable de cette patience, de cette loi de la loi du temps, à ce moment-là, je suis dans un comportement éthique. Et c'est cette éthique que qu'on peut appeler l'amour. L'amour est l'éthique de la patience, de la réaction par rapport au mal que me fait l'autre. De la même façon, par rapport à Dieu, il n'y a pas d'impératif de Dieu, d'impératif de l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment qui nous traverse, cosmique, on se réveille le matin, ouais, c'est super aujourd'hui, j'aime Dieu. Non, on n'aime pas Dieu, il n'y a aucune raison d'aimer Dieu. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il existe, en plus. Alors, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la question, justement, de l'amour par rapport à Dieu, c'est de la même façon de réfléchir à ce qui nous arrive. On pourrait, de manière éminemment pulsionnelle, être dans une sorte de rejet, dans une sorte de réaction négative, mais pourquoi ça m'arrive, etc., comme ce qui est arrivé à Job. Job, c'est l'expérience même d'un amour de Dieu. Mais au lieu de réagir de manière affective, dans un rejet de la transcendance, dans un rejet de tout ce qui pourrait être religion, parce qu'il m'arrive des choses qui sont catastrophiques et qui sont négatives, quand je prends la distance et le temps de la réflexion, et je ne suis pas dans la réaction immédiate, mais dans l'éthique de l'intelligence, à ce moment-là, je peux dire que j'aime Dieu en essayant de, comme l'a dit très très bien Bernard Ribal, et dans, au niveau de l'éthique, ça se situe au niveau du sens et du non-sens. Se poser la question à chaque fois, mais quel est le sens que cela donne à ma vie? Et dans toute action, on peut trouver un sens positif ou un sens négatif. Je vous rappelle une histoire que je vous ai peut-être déjà dit la dernière fois, qui est rapportée par Boris Cyrulnik, qui est rapportée lui-même par Paul Valéry, qui habitait à Chartres, c'est Valéry qui est à Orléans. C'est rapporté par Peggy. Il arrive à Chartres, et en arrivant près de Chartres, il voit un cantonnier avec une grande massue qui frappe. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais, mon pauvre ami? Il dit, vous avez raison de m'appeler mon pauvre ami, je travaille, c'est dur, je casse des cailloux. Bon, Peggy continue, il voit un autre cantonnier, la même masse qui casse les cailloux. Et il dit, qu'est-ce que tu fais, mon pauvre ami? Il dit, j'ai eu de la chance. Je cherchais du travail, j'ai trouvé ce travail. Et en plus, c'est en plein air. Et il continue, il voit un autre qui casse, et il dit, qu'est-ce que vous faites, mon pauvre ami? Il dit, j'ai de la chance, j'ai du travail, c'est en plein air, et je peux nourrir ma famille. Vous ne trouvez pas ça génial? Et il continue, et il dit, qu'est-ce que tu es, le quatrième? Et toi, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais, mon pauvre ami? Il dit, monsieur, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est génial, je bâtis une cathédrale. Et là, j'ai trouvé ça, mais c'est un des textes les plus formidables. C'est-à-dire que c'est exactement la même situation, c'est exactement la même action, mais c'est un sens différent que l'on donne. Et quand on donne un sens différent à son acte, qui est un sens dans une finalité positive, où cela nous réjouit, cela nous transporte, à ce moment-là, on est dans une éthique. Mais c'est une autre façon de penser l'éthique. Mais celui qui est malheureux, il aurait pu dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais qu'est-ce que donc, vous savez cette phrase, mais qu'est-ce que donc je lui ai fait pour qu'il me fasse cantonnier? Ça, c'est le premier. Alors que l'autre, il dit, mais mon Dieu, mais t'es génial, tu me permets de bâtir un espace pour te recevoir dans ce monde. La différence qu'il y aurait entre une réaction affective qui serait une réaction morale, et un n'aime pas Dieu parce qu'il est dans cette réaction, et l'autre est dans la dimension de l'éthique. Alors, juste un mot pour rejoindre Matthieu 25, qui est très, 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 très lévinassien, je vous lis la phrase, et le visage, je vous l'expliquerai l'année prochaine. Lévinas dit, « Posez le transcendant comme étranger et pauvre, c'est interdire à la relation métaphysique avec Dieu de s'accomplir dans l'ignorance des hommes et des choses. » Est-ce que la phrase est claire?
Oui.
Écoutez bien, mais je vais le redire. Je vais le redire, c'est très simple, regardez, la phrase après. La dimension du divin s'ouvre à partir du visage humain. Une relation avec le transcendant, c'est-à-dire avec Dieu, est une relation sociale. C'est là que le transcendant infiniment autre nous sollicite et en appelle à nous. Dieu s'élève à sa suprême et ultime présence comme corrélatif de la justice rendue aux hommes. Et ça, c'est la grande leçon de Maïmonide. Quand vous relisez le Guide des égarés, c'est le niveau le plus haut, le plus transcendant, le plus métaphysique, c'est de permettre que chacun d'entre nous ait accès à la justice.
C'est-à-dire qu'il ne soit... Et c'est cette justice, pour rejoindre la réflexion de Bernard Ribal, et c'est cette justice précisément qui donne la dignité à chacun. La dignité, alors c'est peut-être là la différence qu'il y aurait entre ce que Bernard Ribal a dit et ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, ce qui est formidable, c'est la dignité en chacun au-delà des actions. Mais la dignité en chacun n'est pas une décision humaine au sens où je dis, mes chers amis, nous avons tous la même dignité. Non, c'est parce que nous avons tous droit à la justice et donc tous droit à être jugés par le tribunal, c'est-à-dire par des instances, et qu'on n'est pas jeté en pâture à la vindicte du public, qu'on est dans la dignité. C'est quelque chose qui est terrible aujourd'hui. Par exemple, et j'ai terminé, il y a des personnes qui sont aujourd'hui, et quelqu'un fait quoi que ce soit, il n'y a même plus de justice, il n'y a même plus de juge, il y a des journalistes, il y a ce qu'on appelle la webocratie. Quelqu'un décide de mettre un petit tweet ou une petite insulte ou quelque chose pour dégommer quelqu'un de son poste, et ça va aller, que la personne va devenir un véritable chiffon détruit par cette webocratie. Et je dis qu'il faut passer de la tyrannie de la webocratie à la démocratie des visages. Voilà une phrase qui est extrêmement importante pour Lévinas. Et si on a le temps dans les questions, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'est le visage. Je vous remercie.
Merci.
Bon, en fait, ce que j'ai cru, c'est quand tu as fait ça, j'ai cru que tu disais encore une autre.
C'est pour ça que j'ai changé, je fais ça.
Ah, d'accord. Tu veux dire encore une autre blague, c'est ça?
Non.
Et alors le visage
Le visage, non. Mais ça, donc, vous voulez dire, c'est une question. On est dans le monde. Voilà, on va poser d'abord des questions. Poser d'abord des questions à Bernard, je répondrai au visage après.
Non, le visage, c'est le passage le plus célèbre de Lévinas. Hein. Quand on ne connaît qu'un passage, c'est celui-là. Là,
oui.
Mais c'est vous qui avez le livre. Hein,
oui, alors je vous donne la réponse dans le livre, puisque Bernard fait référence au livre, et vous allez pouvoir le lire vous-même. C'est à la page 60 et 61 de Totalité et Infini. Et Lévinas fait la distinction entre la révélation et le dévoilement. Ça, c'est quelque chose qui est très important, et je vais vous expliquer ça par une anecdote très très simple. Je faisais une conférence, et je crois que vous avez déjà raconté l'histoire, je faisais une conférence il y a quelques années, et au premier rang, il y a une femme qui n'était pas du tout d'accord avec moi. Donc pendant toute la conférence, vous imaginez, deux heures, elle fait comme ça. Bon, j'ai dit, ça doit être une très très grande professeure de l'université, elle ne doit pas être lévinassienne, donc elle n'est pas d'accord avec moi. Et donc, je me suis fait une idée de ce qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Elle arrive à la fin de la conférence, elle fait « Monsieur le rabbin, votre conférence était géniale. » Bon, donc j'ai compris que j'avais imaginé, j'avais plaqué un préjugé sur cette personne. Ça, c'est ce que Lévinas appelle le dévoilement. Quand la compréhension que j'ai de l'autre vient de moi et que je le plaque sur l'autre, je dévoile un sens à partir de moi. Mais ce qu'on appelle la révélation, c'est le fait que l'autre se met à parler pour expliquer ce qu'il est. Le dévoilement est de l'ordre d'une imposition de sens, la révélation est de l'ordre d'une liberté de sens conférée à l'autre. Je vous lis la phrase très simplement, vous allez le comprendre. La manifestation du katoto, où l'être, c'est du grec, où l'être nous concerne sans se dérober et sans se trahir, consiste pour lui non point à être dévoilé, non point à se découvrir au regard qui le prendrait pour thème d'interprétation et qui aurait une position absolue dominant l'objet. On est là, on regarde les objets et puis on donne le sens. Non. La manifestation katoto, c'est-à-dire en soi, consiste pour l'être à se dire à nous, indépendamment de toute position que nous aurions prise à son égard. C'est très clair. À ce moment-là, vous comprenez la phrase. Le visage est une présence vivante, il est expression. La vie de l'expression consiste à défaire la forme ou l'étang s'exposant comme thème, se dissimule par là même, la phrase est compliquée. Le visage parle. Voilà ce que vous devez retenir. Le visage parle. C'est-à-dire, le visage n'est pas ce que je vois, n'est pas le sens que je donne à l'homme ou la femme que je vois en imposant une signification au préalable, mais justement, on retrouve la même dimension. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je vois et je donne du sens immédiatement? Je suis dans une pulsion herméneutique. Je dis immédiatement, je dis tiens, hop, ça signifie telle chose. Alors que si je laisse l'autre être, là encore, il y a la patience, comme dans un truc, et à ce moment-là, l'autre se révèle. Et vous voyez qu'on a exactement, dans le rapport à l'autre, d'un côté, on peut avoir un rapport moral où j'impose un sens à l'autre, ou un rapport éthique où c'est l'autre qui a la possibilité de dévoiler le sens. Le visage parle, la manifestation du visage est déjà discours, page 60. Et là, c'est là que Bernard Ribal a très, 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 très justement dit, c'est le thème le plus connu de Lévinas, mais c'est le thème le plus méconnu de Lévinas. On a l'impression qu'il parle du visage, une sorte de chose poétique un petit peu comme ça. Non, c'est quelque chose de très sophistiqué et de très précis. Et voilà la référence.
Il y a, toujours sur ce thème, il y a Jean-Luc Marion qui a des passages célèbres sur la différence entre l'idole et l'icône et qui rejoignent un peu ce passage de Lévinas sur le visage. C'est-à-dire que le visage est, comme l'icône, dit autre chose que sa première apparence, quoi. Et que ce tout autre est de l'ordre de la transcendance, déjà de l'autre, la transcendance d'autrui, et la transcendance peut-être du divin, mais ça c'est dans les autres pages, mais dans la transcendance déjà d'autrui. Alors que dans l'idole, je m'arrête au visage tel qu'il est, et je prends la chose pour étant l'absolu, alors que dans l'icône, il y a une diaphanie. Il y a un autre passage, une autre anecdote de Luc Ferry qui était sur le plateau de télévision de Bernard Pivot, à l'époque où Bernard Pivot faisait des émissions de télé, et il y avait Mère Teresa aussi. Il y avait Luc Ferry, Mère Teresa, Bernard Pivot animateur et d'autres. Et moi, je ne l'ai pas vu, hein, mais c'est Luc Ferry qui le raconte. Et Luc Ferry dit, je ne sais pas comment elle fait, elle trouve aimables même ceux qui, d'évidence, ne sont pas aimables du tout. Et Mère Teresa expliquait que, en quelque sorte, il y avait une... Alors, elle n'employait pas ce mot, hein, mais il y avait une christophanie, enfin une théophanie, qu'à travers le visage de l'autre, derrière, il y avait toute la transcendance de la dignité de chaque personne. Et effectivement, c'est un passage très utilisé et une excellente référence. Ouais.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre cette transcendance que vous évoquez, c'est-à-dire que si je vois derrière le visage de chacun la transcendance du divin, et que la transcendance du divin est justement ce qui échappe à ma possibilité de perception, c'est que le visage de chacun échappe à mon emprise. Ouais. Et donc si je ne peux pas avoir emprise sur le visage de chacun, la seule manière, comme il le dit très bien, je ne peux pas le prendre avec la main. Et si je le prenais avec la main, la main tiendrait le visage. À ce moment-là, on parlerait que la main tient, on parlerait du maintenant. Le maintenant, au sens du temps, du maintenant, de l'instant, c'est la main qui tient. Et comme on a dit que justement, l'éthique n'est pas de l'ordre du maintenant, du ici et maintenant, mais de la patience pour laisser être les choses, alors on pourrait comprendre pourquoi le fait que la main qui s'approche vers l'autre ne prend pas l'autre, mais se maintient à distance, il appelle ça la caresse, Lévinas. La caresse, c'est le fait que je m'approche de l'autre, mais je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le comprendre. Je le laisse être dans sa singularité, c'est justement ce qu'on appelle son altérité. L'altérité, c'est sur quoi il n'y a pas d'emprise. Et on comprend dès lors pourquoi il y a un titre de Lévinas qui s'appelle « Le temps et l'autre ». C'est parce qu'il y a du temps, parce qu'il y a de l'autre, c'est-à-dire parce qu'il y a de l'altérité, parce qu'il n'y a pas d'emprise, parce qu'il n'y a pas de maintenant, parce qu'il n'y a pas la morale du maintenant de l'affect qu'il y a le temps qui se construit dans la patience du sens que ce, qui n'est pas construit par moi, mais construit par celui qui va avoir le temps de s'exposer.
Le seule petite critique qu'on pourrait faire, pas à vous, hein, mais au texte, c'est de l'opposition qu'on comprend mal, étymologiquement du moins, hein, entre dévoilement et révélation, parce que oui. C'est la même étymologie. Hein. Mm-hmm. C'est lever le voile dans les deux cas. Hein,
oui.
Alors, il aurait trouvé un autre mot, ça aurait été bien. Quoi, hein,
Alors ça, c'est un peu bizarre. Il faut réfléchir parce que Lévinas est un philosophe, c'est pour ça qu'il est passionnant, c'est que c'est un philosophe à la virgule près. C'est-à-dire que chaque mot chez lui a vraiment une raison d'être. Donc il faudrait trouver, je vais essayer, mais essayer de trouver ce texte. En tout cas, de le relire, je pense que dans vos études sur la métaphysique, parce que c'est vraiment ça, la question de la métaphysique, c'est pas la relation à Dieu. C'est pour cela qu'on a parlé tout à l'heure de foi dans le texte, dans la conférence de Bernard Ribal. J'ai la foi, il faut savoir que, comme je l'ai souvent dit quand je suis venu ici, que dans le judaïsme, la foi n'existe pas, ça intéresse personne. C'est Hannah Arendt qui raconte cette anecdote, qui est rapportée d'ailleurs par Lévinas dans l'au-delà du verset. Hannah Arendt va voir le rabbin de sa ville, qui est à Königsberg, et elle dit « Je ne veux pas faire ma bat mitzvah », ce qui est la communion. Et le rabbin lui dit « Pourquoi ?» Il dit « J'ai pas la foi ». Et le rabbin lui dit « Mais qui vous la demande ?» Le problème, dans le judaïsme, il n'y a pas du tout de problème de foi. Et même, je pourrais dire qu'il n'y a pas du tout de problème de Dieu. C'est-à-dire que le problème de l'éthique est indépendant de la religion, parce que la religion, c'est l'éthique. C'est la relation à l'autre homme, dans le respect tel que je viens de l'évoquer, qui, c'est ça qu'on appelle la religion. Et c'est la phrase, il le dit vraiment dans ce passage que j'ai évoqué tout à l'heure. La dimension du divin s'ouvre à partir du visage humain. J'aurais pu en rajouter encore. Et à ce moment-là, vous avez froid, c'est ça? Et c'est pour ça que Lévinas est prêt à parler d'athéisme. Il est prêt à parler d'athéisme. L'athéisme du métaphysicien signifie positivement que notre rapport avec le métaphysique est un comportement éthique et non pas la théologie, non pas la thématisation. Mais bon, je sais par expérience que
les protestants parlent à cet égard de théologie de la mort de Dieu.
Oui.
C'est un peu le même sens. C'est-à-dire que, effectivement, le mot foi, le mot Dieu, ne sont plus pertinents dans cette perspective. Mais c'est là, sur ce point-là, il y a une différence avec le christianisme.
Oui.
Sur ce point-là, hein, sur ce point-là. Parce que la religion, du point de vue chrétien, c'est la relation personnelle d'un être humain avec un autre être humain, le Christ, qui est lui-même en même temps être humain et Dieu. Et y a bien donc présence de Dieu nommément désignée. Et la dignité de la personne humaine, c'est précisément cette réhabilitation de l'homme qui peut plus se regarder dans une glace, quoi. Il y a une phrase de Saint-Jacques, dans l'épître de Saint-Jacques, où il parle de se regarder dans une glace. Je sais pas s'il y avait beaucoup de glace à l'époque, mais enfin bon, il le dit. Je peux plus me regarder dans une glace, mais dans la religion chrétienne, il y a cette idée de pardon, de rédemption, d'incarnation, qui fait que je redeviens la dimension divine par la relation directe, interpersonnelle, concrète, expérimentée, avec la personne incarnée de Jésus. Bon, mais là, on peut rejoindre et parler de judéo-christianisme quand on dit, par exemple, que l'homme est à l'image de Dieu, et que sa divinité est là.
Je pense que la différence... Le juif pense quelque chose de très très proche. Bien sûr, il ne pense pas au Christ. Mais... Pour le judaïsme et pour Lévinas qui ici en est une manifestation dans un discours philosophique, c'est que dans chaque être humain que je regarde, je vois Dieu.
Non mais on est d'accord.
Mais c'est simplement la différence, c'est que pour le judaïsme, Dieu n'est pas le Christ.
Oui, non, mais.
Mais Et moi, je dois y aller. Bon. Oui, sinon, je rate mon train. Là, il est plus que temps. Parce que sinon, je vais rater le match. Vous m'excusez. Non, le train est à 58.
Oui. Je connais le proverbe. Quand la main se lève,
oui.
Le fidèle aussi.
Ah, non, mais reste, parce que là, il y a des questions avec le...
Vraiment, je dois partir aussi.
Ah, t'as aussi le match.
En tout cas, merci beaucoup.
Non.
Est-ce que vous vendez des parapluies? Non. Alors, je vous laisse avec Bernard pour la suite des questions. J'écouterai l'enregistrement. Et puis, merci à l'année prochaine. Donc, bonnes vacances à tous. Si vous pouvez prévoir un mois de juillet.
Bonjour à tous, en tout cas.
C'est génial pour aller pour se la jouer.
Moi, si j'ai des mots, je partirais pas quand même.
Oui, mais je vais. Je suis obligé. Au revoir, Xavier. Merci.
Bonne journée.
Bonjour. Merci.
Bonjour, au revoir.
Maintenant que je suis tout seul, vous pouvez tirer.
Ouais.
Allez-y, ouvrez le feu.
Je suis arrivée un peu en fin de conférence, mais comme je suis arrivée au moment où on parlait du visage, la question qui vient naturellement à l'esprit, c'est la question du voile ou de la burqa, plutôt de la religion islamique. Comment est-ce qu'on peut quelle signification ça peut prendre chez Lévinas, justement ?
Là, c'est deux problématiques quand même intéressantes, ces deux, mais très différentes l'une de l'autre, quoi. Le visage chez Lévinas, il est totalement métaphorique, quoi. Et c'est pour ça que je l'ai comparé à l'icône de Marion, quoi. De même que l'icône n'est que de la chose, hein, mais laisse passer ce qu'on appelle une diaphanie, laisse passer une transparence qui est au-delà de la matérialité de la chose. De même le visage de Lévinas. Le problème du voile islamique qui cache le visage, alors c'est bien le lien qu'il y a, effectivement, est davantage un problème de morale homme-femme qu'un problème de métaphysique, quoi. C'est le problème de la relation homme-femme et de l'appropriation de la femme par l'homme qui ne peut pas être vue des autres. Il y a des justifications coraniques, mais on est loin du problème là, du visage de Lévinas.
Moi, j'avais une petite proposition sur la différence entre révélation et dévoilement, puisque Lévinas parle en français et pas en...
Ouais.
C'est le grec, en fait, l'étymologie, hein.
Non, c'est latin. Hein. Dans les deux cas, hein, dévoilement et révélation, c'est la levée de voile. En grec, c'est aletheia.
Aletheia, oui.
Aletheia, c'est le dévoilement.
Hmm. En fait, je trouve que, en tout cas en français, quand on parle en français, le terme révélation a un sens effectivement où c'est la révélation, elle se fait, tandis que le dévoilement, il y a l'idée, enfin, moi, la manière dont l'entend, c'est qu'il y a un geste de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on enlève quelque chose, on retire quelque chose. Il y a l'intervention de quelqu'un, donc, tandis que la révélation, elle se fait, je dirais, d'elle-même. Je sais pas, c'est ce que je comprends de ce qu'on dit Lévinas.
Si par hasard c'était, si c'était ça, alors il faudrait qu'il inverse les deux sens, quoi. le dévoilement serait dans la version, serait la version métaphysique. Et la révélation serait l'apparence immédiate. Mais c'est pas ça qu'il dit, il dit l'inverse, quoi. Mais on va pas se bloquer sur la... sur dévoilement et révélation. Hein. L'idée, moi j'approuve totalement l'idée de Lévinas. Je pinaille sur dévoilement et révélation. Hein, mais je suis tout à fait d'accord sur... Alors, compte tenu du caractère très universitaire de Lévinas, il doit y avoir une raison, mais que j'ignore, mais qu'il n'indique pas dans son livre. Hein. Il doit y avoir une raison, il s'en est rendu compte. Hein. Ça c'est sûr qu'il s'est rendu compte qu'il utilisait la même étymologie. Il s'en est rendu compte et pourtant il a quand même écrit. Alors pourquoi il faudrait s'adresser à des spécialistes qui ne travaillent que sur Lévinas pour nous donner sans doute la raison. Mais il s'en est aperçu, c'est une mauvaise critique. Je ne suis pas en train de dire « Ah, il ne s'est pas aperçu que c'était la même étymologie ». Non, il s'en est aperçu. Mais c'est un peu gênant qu'il ne m'explique pas quand même. Voilà.
C'est difficile de... Bravo à ceux qui posent des questions, parce que je trouve que c'est redoutable de ne pas être ridicule en posant des questions après des exposés pareils. Alors je me lance quand même. Surtout pour Jean-Patrick. Dans le sens des mots, tel qu'il est perçu actuellement, j'ai bien entendu tous les brillants raisonnements que vous avez faits avec Marc Alain, mais il me semble que éthique et morale, l'éthique, on en parle plus dans l'univers de l'entreprise, dans des univers où normalement on n'est pas censé parler de religion, de Dieu, en tout cas. Plus dans une question de règles de vivre ensemble, de règles de respect les uns vis-à-vis des autres. On dit, voilà, moi j'ai une éthique dans mon travail. Alors que la morale, il me semble, a un peu, une dimension un peu plus spirituelle et je dirais un peu plus une dynamique et un élan vers quelque chose d'absolu qui peut être Dieu. Et qui est un peu on fait ça dans le cadre d'une morale, donc pour une valeur transcendantale. Je ne sais pas si ça rejoint un tout.
Ouais, c'est un petit peu ce que dit Valadier. Hein, en fait, ouais. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Paulin qui dit un vers de Valadier. Mais j'ai pris Paulin, j'ai pris Valadier, on peut en prendre 20. Hein. Et Marc Alain l'a dit lui aussi. Quoi. Il n'y en a pas un qui est d'accord. Mais en revanche, ce qui m'intéresse dans la question, là, c'est le côté actuel, 2014, emploi de morale et d'éthique. Moi, je suis au Conseil économique, social et environnemental, je préside un institut de recherche économique et sociale, je suis engagé dans une centrale syndicale, et je suis très attentif à ce que vous dites. Moi, j'en ai pas parlé, parce que mon sujet, c'était les religions, sources de l'éthique, hein, mais... je suis très attentif à ça. L'une des réponses à votre question, c'est que le mot moral s'est dévalorisé. Et le mot éthique s'est revalorisé. Le mot moral s'est dévalorisé parce qu'on en a eu marre à un moment donné des moralistes. De ceux qui nous donnaient des leçons de morale tout le temps. Et être moraliste, c'est très négatif dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Ça n'est pas dans une faculté de théologie. Dans une faculté de théologie, il y a la théologie morale, et on appelle ces théologiens-là des moralistes, et il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais je parle du langage politique, du langage médiatique.
Donc, faire la morale à quelqu'un, c'est...
Voilà, voilà. Alors que éthique, c'est ennoblissant, quoi. Hein. Morale, c'est réservé à ceux qui donnent des leçons aux autres, quoi. Et pour aller un peu plus loin, parce que ça c'est un peu superficiel, c'est vrai, mais c'est superficiel. Pour aller un peu plus loin, il y a un paradoxe intéressant concernant la morale et l'éthique, c'est que chercher à se donner bonne conscience est immoral, alors que avoir mauvaise conscience est moral. Et vous voyez bien que c'est... On le sent que c'est vrai. Mais vous voyez bien que ça pose quand même un problème, là, avec les mots. Et celui qui en parle le plus de ça, on ne va pas faire du pédantisme, mais celui qui en parle le plus, c'est Hegel. Hegel, 1770-1831. Hegel qui a un long passage très instructif, très passionnant, sur la mauvaise conscience. comme étant une évolution positive de la prise de conscience de l'humanité par elle-même. Effectivement, mes élèves, quand je fais des cours d'éthique, à l'ISC Paris, ils demandent des recettes pour l'entreprise. L'entreprise a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On licencie. Mais ça pose quand même un problème éthique. Oui, mais alors donnez-nous. Alors bon, d'accord, ils sont d'accord tous. On fait quoi? Ils attendent que je donne la recette. Et là, ils prendraient la recette, ils en vont après, ça va. J'ai dit, mais non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de recette, quoi. Et que s'il y en avait une, elle serait immorale. Parce que ça serait pour se donner bonne conscience. En revanche, ce qui est moral, c'est le scrupule. Du grec scrupulum, le grain de sable qui empêche la poulie de bien tourner. Le scrupule, c'est le fait de s'interroger, de se poser des questions. Ce que ne fait pas, par exemple, pour être simple, le loup dans Le Loup et l'agneau de La Fontaine. Pourquoi le loup ne devient pas totalement être humain? Parce qu'il n'est pas du tout sensible à la mise en question. Il est carnivore et il reste carnivore. Il ne peut pas mettre en question. Il ne peut pas mettre en question, il ne peut pas faire autrement qu'être carnivore. La capacité morale de l'homme, c'est qu'il peut faire autrement. Ce sur quoi insiste Kant. L'homme peut faire autrement. Par exemple, un passage de Kant sur le menteur, qui est très simple, il n'est pas compliqué quand même, il est très simple. Il dit le menteur, il peut avoir menti parce qu'il a une mauvaise éducation. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Une mauvaise éducation, on dirait qu'il parle au XXe siècle ou au XXIe. Il a une mauvaise éducation, mauvaise fréquentation, c'est aussi dans le texte. Et donc, c'est pour ça qu'il a menti. Mais en fait, on le blâme, et on est en droit de blâmer, parce qu'on suppose qu'il, de toute façon, parce qu'il est conscience, il aurait pu faire autrement. Donc, le scrupule, alors le scrupule, ça c'est pas dans Kant, hein, mais le scrupule, c'est ce que je conseille moi à mes élèves, hein, le scrupule, c'est l'attitude de celui qui a mauvaise conscience dans la décision qu'il va prendre, parce que les décisions, elles sont toujours dans l'ordre, comme le dit Edgar Morin, dans l'ordre de la complexité. C'est jamais blanc, c'est jamais noir. Celui qui a une conscience morale a forcément mauvaise conscience et des scrupules à prendre une décision ou une autre, parce que le patron qui prend la décision de ne pas licencier, il prend des risques. Et celui qui prend la décision de licencier, il commet une agression forte vis-à-vis de ceux qui sont licenciés. Où est la vérité? Alors le patronat, y compris le patronat chrétien, hein, si je peux me permettre une petite critique sur le patronat chrétien, a inventé une distinction bizarre, hein, j'attends qu'on me l'explique. Il y aurait une morale de la conviction, c'est eux qui le disent, hein, morale de la conviction, et une morale de la responsabilité. Et la morale de la conviction, c'est la morale de tout le monde, hein, ce que vous comprenez comme étant la morale, et dans le cas, l'exemple que j'ai pris, l'attention qu'il faut porter aux hommes qui sont en difficulté dans les délocalisations, dans les licenciements économiques, ça c'est la morale de conviction. Et puis il y a la morale de responsabilité. Ah oui, mais je suis chef d'entreprise, il va bien falloir prendre une décision, ça plaît pas, mais il faut quand même la prendre. Je ne partage pas moins cette dualité. Je comprends, hein. Je comprends bien. Je dis pas ils sont idiots, ils sont débiles, c'est des imbéciles. Non, je comprends très bien. Mais je n'approuve pas cette dualité. Il faut assumer, justement, la mauvaise conscience. Il faut assumer cette mauvaise conscience. Plutôt que de dire, ah ben finalement j'ai quand même raison, parce que je suis quelqu'un de responsable, hein, et en quelque sorte je suis au-delà de la moralité du vulgaire, je suis quelqu'un de responsable qui a des décisions à prendre.
Je crois que c'est Max Weber,
oui.
L'éthique de responsabilité.
Oui. Ouais. Oui, mais ça a été repris par les...
Ça ne fonctionne pas très bien.
Ça a été repris par les EDC, oui.
Ça a été repris par les EDC.
Oui, mais il y a un moment, il y a 7 ou 8 ans.
C'est
Parce que je suis d'accord sur le fait que ça fonctionne de manière assez artificielle.
Ouais, ouais.
Plutôt rhétorique que...
Oui, oui, oui. Oui. Non, là, je n'ai pas cité Max Weber, mais les EDC, parce que j'étais dans une vision plus syndicale et politique qu'une vision philosophique. Là.
J'ai une question. Là. J'étais un peu étonné de ce qu'a dit Mark Allawakening, que vous avez dit à peu près la même chose. J'étais très étonné, par contre, que vous ne passiez ni l'un ni l'autre de la notion de péché. Alors, si elle est différente, si quelque chose est différent en matière de morale ou d'éthique entre le christianisme et le judaïsme, c'est bien cette notion-là. Qui finalement n'existe pas dans le judaïsme.
Non, ni dans l'islam d'ailleurs.
Oui,
ni dans l'islam.
Comment vous verriez ça, le péché et la morale?
Le péché, les choses vont souvent dans la réflexion de façon duale, hein, elles vont par paires opposées. Tout à l'heure, je parlais de bien, mal, profane, sacré, etc. Là, péché, c'est péché-rédemption. La dualité, elle est là. Et la rédemption, elle n'existe pas dans les autres religions. Elle est espérée dans la religion juive. Et encore, ce n'est pas forcément le rédempteur, hein, c'est le Messie. Mais ce n'est pas forcément le rédempteur. Mais je ne veux pas non plus m'en prendre à la religion juive, d'autant qu'il est parti. Hein. Je suis dans la lâcheté la plus totale. J'attends qu'il parte pour critiquer. Mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément une critique. Hein. Je constate qu'effectivement, il n'y a pas la notion de péché dans la religion juive. Et parce qu'il n'y a pas en face la dualité qui est la notion de rédempteur. Pourquoi je suis venu, d'Élie Christ ? Je suis venu pour les pécheurs, pas pour les hommes justes. Quoi. Je suis venu pour les pécheurs. Alors que les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont de très grande valeur morale, je ne mets pas ça du tout en cause, hein, on a les mêmes références avec les juifs à cet égard, il n'est pas question de les critiquer, mais ils s'adressent très souvent aux justes. Ils veulent que les justes réagissent. Hein, ils s'appuient sur les justes. Le Christ, lui, il tire à boulets rouges sur les scribes, les pharisiens. Il est venu pour les pécheurs. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer, mais en 3 minutes, à cause de Xavier, donc je plaisante, pas à cause de lui, à cause du temps.
Grâce
à Xavier. Je vais un peu vite, mais c'est l'idée de réhabilitation dans la dignité. Nous avons tous conscience du poids, excusez-moi d'être vulgaire, mais du poids de la merde qu'il y a en nous. Quoi. Et le christianisme offre un salut ici et maintenant, mais pas simplement dans le là. Là, maintenant. Là. Parce que j'ai pas simplement une somme inouïe d'indignité morale, je suis réhabilité dans ma dignité absolue. Et c'est ça le sens du christianisme. Du moins, dans la question qui m'a été posée, c'est pas... Ça n'épuise pas le christianisme, hein. Mais l'indécence du christianisme, et l'indécence du salut, c'est que je suis ici et maintenant réhabilité dans ma dignité. Quelles que soient mes indignités, hein, quelles que soient mes indignités morales, est-ce qu'il y a une dignité du salaud ? La question se pose en politique. La question se pose dans les relations sociales. Et la question se pose même dans les combats militaires. Hein. Souvenez-vous du général Osérès, qui a écrit un bouquin il y a une dizaine d'années, peut-être, pas plus, hein. Sur la torture, oui. Qui écrit un livre, il était officier durant la guerre d'Algérie, et il dit « J'ai torturé, j'ai fait torturer, et s'il fallait le recommencer, je le referais, parce que mon attitude était éminemment morale. » Et quand vous lisez son livre, il est difficile de lui donner tort, faites bien attention. Parce que lorsqu'il raconte que celui qu'il torture, c'est celui qui sait où l'embuscade aura lieu demain et où ses hommes se feront tuer, les hommes dont il a la responsabilité, et il dit, moi, j'ai la responsabilité de ces types. Il y a déjà eu 2 embuscades. J'ai la responsabilité de mes gars. Et vous me dites qu'il ne faut pas que je torture pour que... je sache ce qui va se passer demain. Et pourtant, il y a beaucoup d'officiers quand même qui n'ont pas torturé. Ben, parce que c'est là l'idée de visage. C'est là l'idée du visage de Lévinas, quoi, l'idée de dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que, aussi salaud, parce qu'il fallait voir comment étaient traités, y compris les cadavres, je passe les détails après l'embuscade, mais quel que soit donc l'indignité du salaud que j'ai en face de moi, il a une dignité absolue. L'assassin d'enfants a une dignité absolue qui se concrétise par le droit à la procédure, au code de procédure pénale. Droit à un avocat, etc. Souvenez-vous de l'affaire Grégory, des tas de procédures ont été annulées, on n'a pas pu trouver le coupable. On a annulé des tas de procédures parce que les empreintes de roue ont été prises 24 heures après le moment prévu par le code de procédure pénale. Les cordelettes n'ont pas été examinées de la façon dont il fallait les examiner selon le code de procédure pénale. Donc, c'est retiré du dossier, tout ça. Le salaud a droit. Alors, il n'a pas droit, il ne faut pas le laisser courir. Hein. On ne va pas lui dire bravo, continue à tuer des enfants. Hein. On l'arrête, ça bien sûr. Mais il a droit au code de procédure pénale. Je crois que seul le christianisme, mais ça ne veut pas dire qu'il ait raison, parce que moi je ne peux pas prouver que le christianisme a raison. Et d'ailleurs, ce serait contraire au christianisme lui-même. Mais seul le christianisme est porteur de cette idée de réhabilitation de l'homme par la croix, quoi, par le pardon. Et un pardon qui n'est pas un acte magique, mais qui est un acte qui coûte. Qui est la mort sur la croix, quoi. Un acte qui coûte. Je crois qu'on est le christianisme, et là il est très important au XXIe siècle, ça. Regardez dans les entreprises, puisqu'on s'occupe, enfin je m'en occupe, il y en a d'autres aussi ici qui s'en occupent, regardez dans les entreprises le nombre de personnes désabusées, désenchantées, qui n'ont plus envie de rien parce qu'ils sont dégoûtés de la vie, quoi. Et d'eux-mêmes, hein. D'eux-mêmes et de la vie. Et là, il y a une parole forte, quoi. Et qui est de l'ordre de la foi, quoi. Il y a en chacun d'entre nous, y compris donc en moi, une dimension divine qui me réhabilite spirituellement malgré mes indignités morales. Et du coup, la distinction forte, c'est la conclusion de mon intervention, c'est que d'un côté, il y a la personne qui, elle, est définitivement sauvée. Et les comportements qui, eux, sont inadmissibles. Le péché. Mais le péché, c'est pas le pécheur, quoi. Voilà.
Alors, la question peut-être, c'est est-ce que le péché, c'est une notion qui est exclusivement théologique, c'est-à-dire dans le regard de la foi, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de péché que si je le fais contre Dieu, c'est-à-dire si mon péché est, ou un manquement, ou en tout cas, voilà, je ne respecte pas le commandement, disons, pour revenir au décalogue.
Ouais.
Aussi, en fait, mon péché n'est qu'une faute, hein, et on retrouve le mot faute dans l'Ancien Testament, on retrouve, je pense, le faute dans le Coran, mais on est dans un regard horizontal. Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, le péché ne peut pas être synonyme de faute morale. Il a une dimension théologique, quoi. Il a une dimension spirituelle. Il est faute contre Dieu. Et concrètement, faute contre l'amour. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages dans l'Évangile qui disent « Tous les péchés seront pardonnés, mais dans les endroits de sévérité, comme le discours sur la montagne, hein, le sermon sur la montagne, qui sont des discours exprès sévères, quoi, exagérément sévères, il est dit que le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné, quoi. Tous les péchés seront pardonnés, mais pas le péché contre l'esprit. Ce qui montre bien la dimension spirituelle et religieuse du péché. et pas sa dimension morale, quoi. C'est un refus de Dieu, du péché. Donc c'est dans l'ordre théologique, c'est dans l'ordre religieux, beaucoup plus que dans l'ordre moral, quoi.
Vous avez dit tout à l'heure, pour revenir au monde de l'entreprise, dans les entreprises, il y a une forme de désenchantement, il y a...
ouais.
Et que c'était peut-être dû à une crise de la foi. Qu'est-ce que peut faire un patron d'entreprise par rapport à ça ?
Crise de la foi et crise de l'amour, mais dans les deux cas, ça concerne les chrétiens. Parce que, alors, je ne veux pas revenir sur ce, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, mais je vais en rajouter. Je crois que il y a des formes de stress très différentes et qu'il y a un stress spirituel. Le stress spirituel, moi, je le rencontre chez mes anciens étudiants. J'ai hélas l'âge où certains de mes étudiants sont chefs d'entreprise depuis 20 ans. Ils ont eu le temps de réfléchir depuis mes cours. Et ils me disent tous, ou presque, du moins quand on discute, qu'ils étaient bien partis avec l'idée de s'investir, d'avoir des projets, de s'engager dans des challenges, de prendre des risques, de travailler en équipe, de donner du sens à ce qu'ils font, et pas simplement gagner du fric. Gagner du fric, hein, il n'y en a aucun qui a dit qu'il ne voulait pas en gagner, hein, mais qu'il n'y avait pas que ça. Et ils disent que finalement, c'est difficile de maintenir cette générosité, parce que l'arrivisme est le profit dominant. Et il est normal qu'une entreprise fasse du profit, mais quand le profit devient l'unique moteur, on n'est plus dans cette ambiance à la fois financière et concurrentielle au sein même des cadres de l'entreprise, pas simplement d'une entreprise à l'autre. Le fait que chacun essaye de faire son trou et ensuite de défendre son prix carré. Et là, c'est le stress spirituel, c'est-à-dire la générosité frustrée, une frustration de générosité. Et elle se ressent dans cet homme désabusé, c'est-à-dire ce cadre qui a 40-50 ans, qui va à son boulot, ouais, ça se passe pas trop mal, quoi. Il n'est pas trop mal vu, il gagne, ça va, mais il s'en fout, quoi, complètement, quoi. Puis il se fout de tout. Et puis son mot d'ordre, c'est foutez-moi la paix, quoi. Sa consigne fondamentale, c'est foutez-moi la paix. C'est vraiment désastreux, quoi. C'est vraiment désastreux. Et ça rejoint donc ce que je disais aussi de la dignité, c'est-à-dire se dégoûter soi-même. Et en ce qui concerne l'amour, ça ne vient pas de moi. Je ne peux pas vouloir aimer, il a un peu dit, Marc, à la juste titre, hein, je ne peux pas vouloir aimer. L'amour vient de Dieu, c'est dans l'évangile de Jean. L'évangile ou l'épître de Jean, je ne sais plus. Enfin, c'est Saint Jean qui le dit. L'amour vient de Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas, Nietzsche a tenté l'expérience, à faire du christianisme sans le Christ. Il s'est dit, on va s'éclater, on va s'exalter à se donner à fond dans des expériences fortes et à prendre le risque de mourir là-dedans. On va le faire, ça. Et on n'a pas besoin de Dieu là-dessus. D'ailleurs, Dieu, il nous emmerde, là. Et en fait, c'est pas possible, parce que je peux pas désirer aimer. Désirer, c'est se préoccuper de soi. Aimer, c'est s'excentrer sur l'autre. L'amour ne peut pas provenir du désir d'aimer. L'amour peut provenir que d'un mouvement qui est en moi et hors de moi et qui m'arrache à moi-même. Et qui est cette présence de Dieu en moi qui m'arrache à moi-même. Le don, c'était dans la conférence précédente que j'ai eu le plaisir de faire ici, où je parlais d'une une expression de Claude Bruère, qui était professeur à la Sorbonne, Claude Bruère qui disait « le don qui donne à me donner », en parlant du Christ. Le don sur la croix, qui donne quoi? Qui donne à inspirer, à insuffler, à dynamiser mon propre don. Le don qui donne à me donner. Il n'y a d'amour possible que par ce biais-là. Je ne peux pas chercher à aimer. Les romantiques, qui sont plus connus que Nietzsche, se perdent dans le vouloir aimer. Quoi. Parce qu'ils sont préoccupés d'eux-mêmes, et donc à contresens de l'excentrement sur l'autre. Et ils échouent tous les romantiques échouent. Et ils le disent. Hein, c'est pas moi qui le dis. Les romantismes se plaisent littérairement à parler de leur échec. Et Gérard de Nerval est allé jusqu'au bout. Il s'est suicidé. Mais sinon, religion, source de l'éthique, oui et non, quoi. Hein, l'éthique, c'est finalement autre chose, mais autre chose de très lié. Quoi. Là, et je crois que l'idée, c'est ça, la personne, il faut la distinguer de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Le pécheur est distingué du péché, quoi. Et là, il y a une éthique, hein, en revanche. On parle bien du sens là, et des finalités. Mais je ne veux pas vous casser les pieds au-delà des limites, c'est supportable. Hein. Ouais,
c'est vrai que sur l'entreprise, entre les finalités de chacun, qui peut avoir une foi différente, justement, et la finalité de l'entreprise, les choses ne sont pas forcément les mêmes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais le conflit n'est pas négatif. Hein. Le conflit n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est l'emploi excessif de la force dans le conflit. Envoyer des bombes atomiques sur des puces. Quoi. Hein, l'emploi excessif de la force, l'emploi excessif, c'est ça la violence. La violence, c'est pas le conflit, c'est l'emploi excessif de la force par rapport au conflit. Par exemple... assassiner son patron parce qu'il me paie mal, il y a un décalage, quoi. Hein, en revanche, faire grève parce que l'entreprise a une grande marge bénéficiaire et qu'elle paie mal ses employés, la grève est un conflit là, qui fait avancer les choses, quoi, qui est positif et qui considère l'autre comme l'exigence d'un dépassement de soi. On n'est pas au-delà de l'amour. Très souvent, on le voit dans les banlieues. L'amour et la violence, c'est le même combat. Paradoxalement, là aussi, hein, c'est par manque d'amour, c'est-à-dire, je ne suis pas reconnu comme quelqu'un qui compte. On se fout de moi. On m'a exclu. Je compte pour rien. J'existe pas. Eh bien, vous verrez cette nuit, avec vos bagnoles qui brûlent, vous verrez si j'existe pas. C'est le même. Hein, être aimé, moi je sais qu'en ce moment, c'est de la fiction. Je suis aimé. J'espère que c'est pas de la fiction. Et donc je sais que quelque part, je suis reconnu comme quelqu'un qui compte. Mais dans certaines banlieues et de façon collective, ils ne sont pas reconnus comme des gens qui comptent. Et la violence a le même rôle que l'amour, quoi, hein. Se faire reconnaître comme quelqu'un qui compte. D'ailleurs, dans l'amour, la querelle d'amoureux qui est fort connue, c'est la façon dont je teste jusqu'où je peux tirer la corde avant qu'elle casse. Est-ce que je suis vraiment pour toi quelqu'un qui compte? Alors, je vais t'agacer et je vais voir si si tu tiens à moi ou si tu t'en vas. L'amour et la mort ont toujours été liés dans la littérature, le cinéma et la poésie occidentale. C'est même l'unique thème. Il n'y a qu'un seul thème de la littérature, du cinéma et de la poésie, c'est l'amour et la mort. Et le christianisme est au cœur de cette mouvance. Hein, aimer, c'est considérer l'autre comme l'exigence approuvée, assumée, de ma propre mort. C'est l'exigence du don de moi-même. Et la mort est vaincue parce qu'elle cesse d'être l'échec de la vie pour devenir la réussite de l'amour. Et tout ça, c'est la mouvance chrétienne, quoi. Et je crois que les chrétiens ont des choses à dire. Des choses à dire, pas comme je l'ai dit là, parce que ça sert à rien, mais à faire, quoi. À faire plus qu'à dire. Mais moi je suis prêt, j'ai rien d'autre à faire.
Ça peut être le mot de la fin, je pense que c'est bien.
Merci. Oui, non, mais moi je suis pas pressé. Ah oui, je voulais vous recommander ce livre, mais vous l'avez peut-être lu. C'est beaucoup plus facile que les livres de Marc Alain, mais alors, en revanche, je reconnais que les livres de Marc Alain sont beaucoup plus profonds que celui-là. Mais celui-là est très facile à lire. Philippe Barbarin et Luc Ferry, Barbarin cardinal de Lyon, Luc Ferry agnostique, et il y a un dialogue sur la morale, tout le temps là-dedans. Et c'est bien fait, quoi. Que ce soit Luc Ferry ou que ce soit Barbara, dans les deux cas, c'est bon et facile. C'est aux éditions Salvador. Ça porte très mal son titre. Hein.
Merci beaucoup.
C'est pas le bon titre. C'est ce qu'il va là.